France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Enfants d'intérieur, enfants d'extérieur. Welcome. Épisode 1, rois et reines du Wi-Fi.
Make sure your computer is on and your program manager is running. Now, click the file menu and select run.
L'idée de ce sujet est partie d'une interview entendue sur Internet.
And now for my discussion with Dr. Jonathan Haidt. Dr. Jonathan Haidt, welcome.
Thank you, Andrew. I'm a long-time listener. I've developed many good habits because of you. Thank you.
Thank you. Well, you look very healthy.
Il s'agit d'une discussion entre l'universitaire américain Jonathan Haidt et le podcasteur et neuroscientifique Andrew Huberman. Jonathan Haidt est l'auteur du livre Génération anxieuse, qui a connu un grand succès dans le monde entier et a été traduit dans de nombreuses langues, dont le français. Dans son essai, ce spécialiste de psychologie sociale entend démontrer que les personnes nées après 1995 sont plus anxieuses que celles de la génération précédente. La raison, selon lui, après l'apparition d'Instagram, de TikTok, des tablettes et du smartphone, les enfants et les adolescents sont devenus davantage sujets au mal-être. Haidt explique que, par exemple, si en 2008, 12% des adolescentes américaines avaient connu un épisode dépressif dans l'année, elles étaient 30% 12 ans plus tard, en 2020. Certes, c'était l'année du Covid, il y avait eu pas mal de bonnes raisons d'être anxieux cette année-là. Mais Haidt considère qu'il s'agit surtout d'une tendance de fond que le Covid n'a fait qu'amplifier en renforçant la consommation de contenus digitaux.
If you're getting less sleep, that's bad. If you're having blue light at night, that's bad. If you're not going out in nature, that's bad. If you are sedentary,
Haidt estime que, pour les filles, le problème est de devoir se conformer aux standards de beauté et de séduction véhiculés par les réseaux sociaux. Pour les garçons, l'anxiété et la dépression viendraient davantage d'un temps trop long passé sur les écrans, à jouer aux jeux vidéo ou à regarder des vidéos X. Alors y a-t-il effectivement un lien entre les écrans et le mal-être des jeunes? Ou bien sommes-nous face à une panique morale comme à chaque fois qu'émerge une nouvelle technologie? On a toujours accusé les nouveaux médias de causer du tort aux jeunes et on peut se demander si on ne vit pas aujourd'hui la saison, disons, 14 de cette série bien connue, celle de la querelle des anciens et des modernes. Autrement dit, est-ce que Jonathan Haidt n'aurait pas dit la même chose à propos de l'invention de l'imprimerie s'il avait vécu au 15e siècle? C'est ce que nous allons voir au cours de ces deux épisodes. Le premier centré sur les médias qui sont des divertissements solitaires et d'intérieur, le second sur les jeux et la sociabilité d'extérieur. Vous allez voir que dans ces deux domaines, les archives ont beaucoup à nous dire.
Now, click the file menu and select run.
Enfants d'intérieur, enfants d'extérieur, une mini-série de salles des archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, attaché de production Lily Corner, réalisation Somanina.
En général, l'apparition de nouvelles technologies de communication provoque plutôt de l'enthousiasme. Ceux qui les adoptent au départ sont des convaincus, qui en font la promotion, et ces technologies ne sont pas encore assez répandues pour provoquer des polémiques dans la société. Le numérique a d'abord été vu comme un instrument en plus dans nos vies, permettant de créer davantage de liens entre les gens. Dans la salle des archives, à la lettre T comme télématique, on trouve un document qui nous explique pourquoi le numérique va apaiser les conversations et rendre tout le monde d'une civilité à toute épreuve. Nous sommes en 1988 et le concept de troll n'a pas encore émergé, pas plus que celui de clash en ligne.
Avec ces nouvelles technologies de l'information, naît quelque chose de tout à fait original, de tout à fait nouveau, qui n'est pas encore analysé, qu'on voit simplement apparaître, qui sont des nouveaux codes de politesse dans la communication. Quand on communique sur un réseau, on ne peut pas s'engueuler, on ne s'engueule jamais. Sur un réseau électronique, le temps d'écrire son message sur un clavier, on s'est déjà calmé, on a déjà fait finir sa colère, et on entre jeune et rajeuni. Car en plus, avant d'envoyer son message, on a quelques secondes pour le regarder. Et ces quelques secondes-là tuent l'agressivité de la communication. On se dit, mais pourquoi ai-je été aussi violent? Il n'y avait pas de raison de l'être. De la même manière, sur les nouveaux réseaux, on ne peut pas ne pas répondre. Mais on peut répondre à sa main. On peut répondre quand on veut. Le cas de la télématique est frappant. Alors que sur les médias classiques, on pourrait exagérer un peu en disant, la place est aux grandes gueules. Sur les nouvelles technologies, la place est à tous les types de communication possible.
En 1988, cette femme qu'on vient d'entendre, Marie Marchand, était chargée d'imaginer l'avenir des communications au sein de France Télécom. 37 années plus tard, on constate qu'elle n'avait pas vraiment anticipé que les grandes gueules se trouveraient tout autant sur les réseaux sociaux que dans les médias classiques et que la culture du clash naîtrait d'abord sur les réseaux avant de s'exporter à la télévision.
Vous pensez que c'est le type de programme et le type d'outils qui peuvent avoir de l'avenir chez quelqu'un ?
Bien sûr.
Et avec une manque de données, avec des vidéos, ça peut remplacer la télévision tout simplement ?
Facilement, oui. Parce que le téléspectateur pourra choisir et il ne restera pas passif, mais il sera actif et il choisira son programme.
Vous y croyez vraiment ?
Oh, ça surpassera certainement la télévision. Enfin, maintenant, dans combien de temps ?
Monique Dagneau, vous êtes sociologue des médias et des réseaux sociaux. Vous vous intéressez également aux cultures des adolescents et des jeunes adultes. Avec le recul, est-ce que vous diriez que nous n'avons pas vu venir les problèmes induits par la vie numérique, en particulier pour les jeunes ?
Dire que c'était un projet de conversation apaisée et réflexive, cela me paraît extrêmement ambitieux et utopique. Alors qu'il y a, chez les réseaux sociaux, beaucoup d'aspects intéressants et positifs, comme la capacité expressive, comme l'autonomie qu'elle donne aux adolescents, comme la possibilité de créativité. Ce sont des choses que les sociologues ont observées, que moi j'ai observées effectivement quand j'ai commencé mes travaux sur ces sujets. Mais dire que ça allait conduire à une communication apaisée, ça me fait sourire.
Mais est-ce que vous diriez que Jonathan Haidt a raison en ce qui concerne les écrans et les réseaux sociaux quand il dit que c'est dangereux et que ça augmente les dépressions de façon réelle chez les adolescentes et les adolescents ?
Je connais son livre, hein, qui est un livre qui quasiment établit une corrélation entre la montée de la culture numérique et puis la dépression des jeunes. Je suis assez méfiante quand même. Parce que, comme tout média, les réseaux sociaux conduisent à des choses qui sont intéressantes, sympathiques. Mais il y a quand même une corrélation.
Est-ce que vous avez le sentiment que la révolution numérique est un bouleversement plus fort dans la vie des jeunes d'aujourd'hui que d'autres révolutions médiatiques l'ont été pour les générations précédentes ?
Franchement, oui. Là, j'irais tout à fait dans ce sens-là. Si vous voulez, par exemple, au début des années 50, quand la télévision est devenue un média de masse, regardez familialement, déjà des sociologues à Harvard avaient observé les déplacements importants des temps sociaux et des modes de vie familiaux. Je me souviens, en 2 ans, donc c'est vraiment un effet masse, et ce n'est que la télévision, et pas la télévision qu'on connaît aujourd'hui, la durée de sommeil des enfants avait diminué d'une heure en moyenne, et il y avait pratiquement une proportion très 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 importante de familles américaines qui déjeunaient devant la télévision, avec tous les effets que ça peut avoir, c'est-à-dire la diminution des interactions familiales. Donc de ce fait, on avait apprécié que ça transformait de façon puissante les modes de vie des individus. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, notamment après les années 2010 et encore plus 2020, en plus amplifié avec le Covid, c'est véritablement une rupture anthropologique sur la façon de vivre des adolescents, des familles.
Les médias de masse ont toujours été accusés de pervertir les consciences des plus jeunes. Nous n'avons pas d'archives sonores de l'époque de Gutenberg, même si avec l'IA, cela pourrait bientôt s'arranger. Mais nous en avons de l'après-Seconde Guerre mondiale, période durant laquelle ce thème était déjà très présent. Écoutez par exemple cet extrait d'une émission de janvier 1950 consacrée aux journaux d'enfants qui sont accusés, vous allez l'entendre, de bien des maux. Vous noterez au passage la savoureuse mise en scène de ces débats dont chaque ligne a été écrite à l'avance pour une spontanéité à toute épreuve.
Ce que vous reprochez dans l'ensemble aux journaux d'enfants affichés dans les kiosques actuellement, c'est donc une vulgarité insupportable dans la couleur, les dessins et l'intrigue.
Les énormes fautes d'orthographe. Le chef le veut, écrit VEUX. C'est d'autant plus grave que ce qui est écrit a pour l'enfant et même pour les grandes personnes un caractère d'authenticité.
Ce que nous reprochons à ces journaux, c'est un manque de goût, d'intelligence, l'absence de tout ce qui est éducatif. Attention, il ne s'agit pourtant pas de faire des journaux moralisateurs. Nos gosses sont modernes, ils attendent des choses vraies.
Mais en attendant, il faut le dire, nous croyons en des journaux d'enfants qui sachent respecter
la vérité,
l'intelligence,
le bon goût,
l'orthographe,
l'esprit.
Oui, mais qui les fera ?
Monique Daniel, aujourd'hui, on félicite les enfants de lire, y compris des revues pour enfants ou des livres de fantasy, alors que ces journaux, on vient de l'entendre dans cette archive de 1950, étaient vus comme un danger potentiel.
Tout à fait. Le cinéma aussi était vu comme un danger potentiel dans les années 30. C'est-à-dire, on pensait que simplement la vision du baiser allait introduire chez les jeunes une sexualité développée. C'est déjà une critique qui était portée bien avant ces journaux dans les années 50. Aujourd'hui, je dirais que la critique, elle va finalement dans infiniment plus de directions. Ce n'est pas uniquement les contenus, mais l'action, les interactions qui sont importantes. C'est ce que cela provoque, plus que le contenu lui-même.
Mais pour vous, cette peur qu'on entend dans l'archive qu'on vient d'entendre, c'est la même que la peur qu'on peut ressentir vis-à-vis des réseaux sociaux, ou c'est un peu différent quand même ?
Je dirais que par rapport à des angoisses qu'on a eues à certaines époques vis-à-vis alors du cinéma, de la télé ou des journaux pour enfants, Internet et les réseaux sociaux, c'est d'une telle amplitude dans tous les aspects de la vie, avec des côtés positifs, des aspects de danger, la mise en fragilité des jeunes. De ce point de vue-là, je serais assez d'accord. Plus personne ne maîtrise rien, en fait. Un journal, vous pouvez encadrer, vérifier les contenus. Un film aussi, d'ailleurs. Mais là, puisque tout le monde est à la fois, comme on dit, producteur et consommateur de contenu, je pense que c'est très difficile de maîtriser les réseaux sociaux.
Un peu moins de 12 ans après cette émission scénarisée consacrée aux journaux d'enfants, la RTF traitait de nouveau la question. Et vous allez entendre que le ton a changé, tout comme la forme d'ailleurs. Cette fois-ci, il n'est plus question d'entendre des parents paniquer et on laisse les enfants s'exprimer par eux-mêmes avec une écoute bienveillante.
Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parler.
Aujourd'hui, une enquête de Philippe Réal sur la presse enfantine.
À notre époque, en 1961, que lisent les jeunes ? Dans un récent article, notre confrère Jean-Jacques Servan-Schreiber écrivait à propos de l'exploit du commandant cosmonaute Titov que grâce à leurs journaux, nos enfants étaient en avance sur nous et regardaient, voyaient le monde comme il faut le voir actuellement. Il y aurait beaucoup à écrire et à dire sur ce thème, mais Servan-Schreiber a certainement touché du doigt l'un des phénomènes les plus ahurissants de l'ère numéro 1 du cosmos. Les enfants de 7 à 15 ans avaient prédit les aventures de Gagarine, Titov, Shepard et de leurs satellites. Si bien que lorsque leurs parents s'arrachèrent les éditions spéciales de leurs journaux, absolument stupéfaits des expériences soviétiques, les enfants, pas étonnés le moins du monde, étaient déjà sur la Lune ou sur des planètes lointaines. Place à la toute jeune génération 1961. Comment t'appelles-tu ?
Stéphane.
Et toi ?
Michel.
Bon, dites-moi tous les deux, vous avez votre papa ?
Oui.
Est-ce qu'il lit les journaux, votre papa ?
Oui.
Oui ?
Oui.
Il lit vos journaux ?
Oui.
Il lit Mickey ?
Oui.
Oui ?
Et puis il lit Mickey Mouse. Il y a une petite maison avec une dame qui a un chien, puis elle vend des journaux à papa. Je donne des journaux à papa. Puis il y a un monsieur qui a une moto et une petite maison à roulettes. Alors il met les journaux dedans. Et quand il voit la dame dans sa maison qu'on n'a presque plus, il vient chez la dame et puis il en dépose.
Il dépose les journaux.
Oui.
Et ton papa alors achète tes journaux.
Oui.
Et il te les donne après ?
Ah non, parce qu'il les garde lui.
Il les garde pour lui ?
Oui.
Mais tu les lis quand même ?
Oui, quand il n'est pas là, ben, je lui fous des journaux, puis je lis.
Merci Stéphane, merci Jean-Michel.
Dans cette archive, d'abord, l'enfant qui parle, il a l'air assez jeune. Ce qu'il dit, c'est que le père ne laisse pas lire les journaux. Alors, ce qui est un des points très 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 importants des réflexions sur les nouveaux médias, c'est que ces médias ont ouvert le monde des adultes aux enfants sans filtre et sans accompagnement et montrent les adultes dans tout leur bon côté peut-être, mais aussi leur tricherie, leur mensonge, et montrent évidemment la vie sexuelle des adultes. Il y a eu un accès absolument incroyable au contenu pornographique.
Donc l'enchantement de l'enfance, finalement, existe moins.
C'est la fin du monde des adultes. Avant, on tenait secret, notamment par le biais du livre, ou par le biais même éventuellement un peu des journaux pour enfants. Il y avait des contenus auxquels on a accès en fonction de l'âge. Et donc, il y avait un certain contrôle. Aujourd'hui, par les médias de masse, les médias d'image, on n'a plus vraiment de contrôle et les enfants sont plongés très très vite dans le monde d'adultes.
M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Who's the leader of the club that's made for you and me?
Si l'on en croit cette archive des années 60, lire des journaux d'enfants comme Mickey Mouse ou Pif Gadget semble alors globalement considéré comme une chose acceptable et sans danger. Mais la question continue de se poser pour les films dont le pouvoir subversif semble encore supérieur. On accuse le cinéma de mettre en scène la violence et donc de la favoriser. À vrai dire, on retrouve ce thème dans les archives dès la fin des années 40, d'où la question de créer un cinéma spécifiquement adapté aux enfants. Exemple de ce débat avec une émission intitulée « Faut-il faire des films pour les enfants ?» Elle date du 24 mai 1949.
Les enfants vont n'importe comment au cinéma, ils sont mélangés aux adultes, ils y vont à n'importe quelle heure, ils y vont plusieurs fois par semaine, souvent assistent à des séances 3-4 fois, ils voient le même film. Tout cela est fort anarchique et si on doit maintenir un principe de liberté, à la base de toutes les discussions, il est quand même nécessaire de veiller à ce que le cinéma ne soit pas dangereux pour la jeunesse et qu'au contraire, même dans les loisirs, il puisse contribuer à non seulement son éducation, mais surtout à sa distraction dans des conditions convenables.
Mais des films bons pour adultes sont dangereux pour les enfants. L'enfant voit dans le film une image de la réalité. Il y puise une fausse image de la vie et la répétition des scènes exceptionnelles, indispensables pour intéresser les adultes, donne aux enfants une fausse conception de l'existence. Ainsi, le cinéma qui se présente pour moi comme la synthèse vivante et puissante de tous les moyens possibles d'expression, au lieu de hâter l'éclosion et l'épanouissement des enfants, la retarde. Parce qu'en fin de compte, il faudra bien qu'ils vérifient dans le concret que ce que leur présente le cinéma actuel, fait pour tous, donc pour les adultes, leur présente.
Allons plus loin, si vous le voulez bien, et sur un autre terrain. Est-ce que vraiment, vous avez l'impression que les enfants se plairont à des films que l'on leur présentera précisément comme conçu pour eux.
Mais s'ils sont bons,
ne croyez-vous, attention.
Ah, voilà la question.
Ne croyez-vous pas qu'ils seront vexés et qu'ils auront un mouvement de recul par ce fait même qu'on leur dira ceci est pour vous, n'allez pas là, c'est pour les grandes personnes, allez dans cette salle et allez-y le jeudi après-midi, c'est pour vous.
C'est une question de talent, c'est comme le reste.
Oh, le talent.
Une réaction sur cette archive, Daniel.
Ouais, c'est intéressant de voir comme finalement à chaque étape de ces nouvelles technologies, ces nouveaux médias, on s'est posé la question de la protection de l'enfance et de l'adolescence. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement à chaque nouveau média apparaît une sorte d'industrie particulière dédiée, tournée vers les enfants. Par exemple, la littérature enfantine qui s'est énormément développée, qui est très développé en France. Bon, vous avez aussi des strates, tout un ensemble de magazines qui ont fleuri au cours des 20 dernières années et qui sont adaptés à chaque classe d'enfants. C'est-à-dire qu'on a essayé de recréer cette protection des enfants en fonction de leur âge. On donne des indications. Voilà, ça c'est, vous pouvez acheter tel livre, vous pouvez les laisser regarder sur la télévision. Il y a effectivement des indications sur les âges des programmes et en plus les horaires de programmation, etc., etc. Donc on renvoie aux parents la responsabilité de se débrouiller et d'organiser l'accompagnement des enfants.
Thank you.
Dans les archives radio des années 60, on sent bien qu'une nouvelle génération est arrivée au micro et que les journalistes ont grandi avec les médias de leur temps. Ils n'ont pas peur, eux, semble-t-il, de ce que le cinéma pourrait faire à leurs propres enfants.
Est-ce que tu aimes mieux le cinéma ou la télévision ?
Le cinéma.
Pourquoi ?
Parce que ça dure plus longtemps.
Ça dure plus longtemps. Et t'aimes bien sortir ou tu préfères rester chez toi ?
Rester chez moi.
Alors, le cinéma, ça te fait sortir ?
Oui.
Ça fait rien, tu préfères le cinéma ?
Oui.
Est-ce que tu te souviens des films que tu as vus ?
Oui.
Ah, tu peux m'en parler ?
Oui.
Allez, raconte-moi, qu'est-ce que tu as vu comme film ?
Laurence d'Arabie.
T'as vu Laurence d'Arabie ? Et alors, qu'est-ce que ça raconte, Laurence d'Arabie ?
C'est un arabe.
Oui.
Dans un train, il y a des chevaux, alors il les vole. Il fait sauter la voie, il les prend. Puis après, il a deux amis. Ils se promènent dans le sable mouvant. Oui. Et il y en a un qui s'enfonce.
Est-ce que tu aimes, par exemple, Charlot ?
Oui.
Tu aimes Charlot ?
Oui.
Oui ? Ça te paraît pas vieux, ça ?
Si.
Et est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir vu un film qui t'a donné des cauchemars, qui t'a gêné ?
Oui, plusieurs fois. Une fois, à la télévision, j'avais vu un film de corsaire.
Et qu'est-ce qui t'a fait peur ?
Parce que quand ils se battaient.
Et qu'est-ce que tu préfères quand tu vas au cinéma ? Tu es bien content quand il se passe quoi ?
Quand des fois, il y a de la bagarre.
Quand il y a de la bagarre. Oui. Mais il faut pas que ça fasse peur.
Non.
Dans cette archive de 1965, on entend bien que le journaliste qui interroge le petit garçon n'est pas du tout dans le jugement sur le média cinéma. On a intégré, au fond, ce média comme étant quelque chose de possible à regarder pour les jeunes, pour les enfants.
On l'a intégré surtout comme quelque chose de meilleure qualité, de plus performatif en matière éducative pour les enfants, et ne serait-ce que parce qu'on doit suivre un récit assez long. Un approfondissement qu'une vidéo, par exemple.
7 secondes sur un réseau
exactement.
Social.
Mais aujourd'hui, il y a une partie des jeunes qui a de la difficulté à voir des récits, encore plus des romans, ou des essais, même des films, parce que c'est trop long. Alors c'est parce que ces nouveaux médias, ils nous ont fait rentrer dans des modes de lecture et des modes d'appréhension du réel qui sont tout à fait nouveaux, et notamment la culture des jeunes, pour aller vraiment très vite aujourd'hui, ils rentrent dans la culture du numérique par les vidéos. Et donc, ils rentrent quand même dans ce monde des images avec l'idée que ça doit aller vite.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est problématique ou est-ce que c'est simplement un changement au fond naturel qui arrive avec une nouvelle technologie comme ça a toujours été ?
Alors, c'est problématique, je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous voulez, toute cette culture-là, ce qui est quand même une culture de la distraction, c'est assez en opposition avec la culture scolaire. La culture scolaire, c'est une culture qui passe quand même beaucoup par l'écrit, même si on utilise les images plus qu'auparavant. C'est une culture qui demande une certaine assaise. Il faut faire un certain effort pour le suivre. Alors que la culture du divertissement, son propre, c'est d'être le plaisir immédiat. Et donc, de plus en plus, ça je l'avais observé déjà au début des années 2000, il y a une distinction entre la culture scolaire et ce qu'on attend des jeunes et la culture à laquelle ils sont confrontés dans leur vie réelle.
Elle me fait perdre la raison, la télévision. Elle bouleverse tout dans la maison, la télévision. Avant j'étais vraiment tranquille, puis un beau jour j'ai acheté, pour faire plaisir à ma famille, un poste de télé.
Après le cinéma, et selon la fameuse loi du dernier média arrivé, c'est la télévision qui va à présent concentrer les critiques. On l'accuse, comme les médias sociaux aujourd'hui, d'engloutir le temps de cerveau des enfants et des adolescents. Et comme aujourd'hui, les parents sont montrés du doigt quand ils laissent leur progéniture hébétée face à un écran. Dans l'émission Interfemmes du 13 mars 1974, les auditrices devaient avoir le cœur bien accroché pour appeler le standard et risquer ainsi de se faire passer un savon sur leurs méthodes éducatives.
Voilà, alors nous prenons maintenant un autre appel au 525 42 42. C'est à vous, allez-y.
Allô, madame, je voulais demander pour un petit enfant de 2 ans si c'est mauvais qu'il regarde la télévision. Parce que le soir, je suis la grand-mère, j'ai remarqué que quand on me l'amène le matin, il se frotte les yeux. Alors les parents mettent le poste le soir, les informations, le gosse va et vient dans la pièce, il se met des fois devant le poste, enfin...
Oui.
Je voulais savoir si c'est...
Oui, ça c'est de la folie de laisser un enfant de 2 ans regarder la télévision le soir, à part les 5 minutes qui lui sont destinées vraiment. Alors là,
il n'en a le droit qu'à 5 minutes.
Alors là, madame, il faut éduquer les parents.
Non, mieux pas du tout, parce qu'après, il réclame.
Oui, mais ça, non, il faut être intraitable.
Extraordinaire. Ah. De toute façon, à l'heure des informations, un enfant de 2 ans devrait être couché.
C'est-à-dire
qu'il
se couche vers
8h30, par là. Oui, alors comment se fait-il qu'il regarde 2 heures la télévision?
C'est-à-dire que les parents mangent et puis il est à table, alors voilà.
Oui, alors il faudrait...
Pour tout le monde.
Alors voilà, il faut que vous éduquiez les parents. Il faut leur dire que l'enfant doit être couché. Un enfant de 2 ans, ça doit être couché.
Oui.
Ça doit dormir. Et comme ça, le lendemain matin, quand vous le récupérez, il ne se frottera pas les yeux parce qu'il aura dormi suffisamment et dans le calme.
Et chez moi, alors je ne peux pas lui laisser non plus, naturellement.
Ah, écoutez, si déjà il a 2 heures le soir avec ses parents, si en plus vous lui mettez alors vous dans la journée,
non,
vraiment,
ça
sera un bébé télévision. Ça sera tout à fait remarquable. Je ne sais pas le résultat que ça donnera quand il aura 20 ans, mais...
Oui.
Voilà, nous allons prendre maintenant un autre appel au 525 42 42. C'est à vous, allez-y.
Allez hop, voilà pour cette auditrice rhabillée pour l'hiver, quoi qu'on pense des conseils qui lui sont prodigués. Est-ce qu'on a du recul maintenant sur ce que la télévision a fait aux enfants dans les années, je ne sais pas, 80, 90? Est-ce que ceux qui sont devenus aujourd'hui des adultes, parce qu'ils auraient trop regardé la télévision, en subiraient des conséquences? Est-ce qu'on le sait, Monique Dagneau?
Alors, je ne répondrai pas directement parce que je ne pense pas qu'il y ait d'études qui puissent le prouver. Mais moi, je travaille donc sur la génération Y, donc celle qui est entrée dans le monde de l'information et de la connaissance par le biais des outils numériques. C'est la première génération. Et elle, je la suis. Aujourd'hui, elle a 30 ans, plus de 30 ans, autour de 40 ans même. Et par mes études, bizarrement, je trouve que c'est une génération qui n'est pas très optimiste. Alors, il y a plein d'autres facteurs qui l'expliquent, mais la génération qui suit, par exemple la génération Z, est plus dynamique, positive, tournée vers le monde que la génération Y. C'est une génération spécifique, bizarrement.
Est-ce que vous diriez, un peu comme Jonathan Haidt, qu'il faudrait mieux quand même que les enfants et les adolescents soient davantage dehors et qu'on ait moins peur de les laisser dehors plutôt que sur des écrans où ils peuvent aussi vivre des expériences problématiques?
Bah, évidemment, tout ce qui est activité intérieure et avec du numérique du temps qu'on ne passe pas à s'éclater, à courir, à visiter les villes, les musées, dans le meilleur des cas, on a raison de dire qu'on les protège trop. C'est la posture, évidemment, de ce chercheur. Sur ce plan-là, il a totalement raison. Mais je trouve qu'il établit une corrélation beaucoup trop directe avec les réseaux sociaux sur le pessimisme psychologique des nouvelles générations.
À plusieurs moments dans les archives de cet épisode, nous avons entendu l'opposition entre le temps passé seul, à lire un journal, devant un film ou à regarder la télévision, et le temps passé dehors, à plusieurs. On retrouve dans le livre de Jonathan Haidt cette même dichotomie entre intérieur et extérieur. Pour lui, les enfants d'aujourd'hui ne passent pas assez de temps dehors à vivre des aventures dans la ville à cause de leurs parents. Pourtant, explique-t-il, les dangers du numérique sont au moins aussi grands que les dangers du dehors. Nous allons voir dans l'épisode qui suit ce que les archives ont à nous dire sur ce sujet.